Bonjour, bonjour, auditrices et auditeurs de Radio Galère, c'est l'heure de Libre Débat, comme presque toutes les semaines, pas trop en ce moment, il faut le dire. Mais voilà, comme je suis en retard, je vais lancer tout de suite le son. Il s'agit d'une émission qui n'est pas toute jeune, il s'agit d'une émission de dégenré qui s'appelle La Renversionnite. Et c'est une émission qui a été faite avant MeToo, mais malheureusement, elle n'a pas pris une ride, alors on peut toujours l'écouter. Parce que ça fait du bien d'analyser un peu précisément qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe quand des personnes dominantes chouinent, expliquent que c'est trop dur d'être un homme, qu'on ne peut plus rien dire et se servent en fait de rapports de domination pour écraser d'autres. Ça, on le retrouve assez souvent, on le retrouve dans la vie quotidienne, on le retrouve dans nos travails, dans nos associations. Alors, c'est toujours très salutaire d'y réfléchir. Je vous souhaite une bonne écoute.
L'inégalité des sexes est constitutive à la nation et franchement à la construction de l'État et de l'ordre politique comme il est. Donc ça n'est pas quelque chose qui disparaîtra automatiquement, même si on nous le dit tout le temps.
Contrôle policier, contrôle judiciaire, contrôle médical, contrôle politique, contrôle économique, contrôle social, contrôle moral. À l'image de nos vies, nos corps sont des champs de bataille. Chacune d'entre nous a développé ses propres stratégies et ses propres armes, seule ou collectivement. Ce combat est quotidien, ce combat est familier, ce combat est donc notre force. Nous le menons parce que ce sont nos vies qui sont en jeu. Vivre, c'est combattre, et nous avons décidé de vivre.
C'est Dégenré, une émission féministe pour
déranger
les 2e et 4e mercredis du mois, de 18h à 19h30, sur Radio Kaleidoscope 97FM et quand tu veux, sur radiorageuse.net.
Bonsoir, alors bienvenue sur Dégenré ce soir, à partir de 18h, parce que nous avons effectivement un nouvel horaire pour 2015. Et alors ce soir, nous allons parler de renversionnite. Mais qu'est-ce donc que la renversionnite, me direz-vous ? Oui, parce que la renversionnite, c'est un mot qu'on a complètement inventé. Et qu'on a inventé parce qu'il n'y avait pas de mot qui existait pour en parler. Alors la renversionnite, c'est cette tendance aiguë à renverser les systèmes de domination. Par exemple, c'est quand une personne qui est dominante dans une situation, qui a du pouvoir, qui a une position socialement dominante, va se sentir oppressée par une lutte. Alors on va vous citer plein d'exemples durant l'émission, mais ça va être par exemple comment des hommes vont se sentir oppressés par le féminisme ou comment des blancs vont se sentir oppressés par des personnes racisées qui sont en lutte contre le racisme ou comment en fait des personnes, pour pas globalement se remettre en cause par rapport à leur comportement dominant, vont sortir plein d'arguments de très mauvaise foi pour pouvoir se protéger de n'importe quelle remise en cause et donc conserver ses privilèges et conserver sa position de pouvoir. Ça vous va comme définition ?
Pas mal. Alors moi, au moment où j'ai fait les interviews quand même, vu que c'est un terme qui a été complètement inventé, et j'ai remarqué à plusieurs reprises que les personnes, après leur premier étonnement, le terme en lui-même, les ramener à quelque chose. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez choisi ce terme-là, un petit peu, me raconter ?
Ce qui était intéressant dans ce terme, c'est qu'il permet de synthétiser. En fait, souvent, on fait des phrases assez longues pour parler de renversement des rapports de domination. Enfin, il y a plusieurs périphrases comme ça. Et là, ça permettait, dans un seul terme, de condenser tout ça, en fait. Et ça termine par « it ». Alors du coup, ça a comme un petit effet maladie, vous voyez. Et où du coup, un peu l'enjeu de cette émission, ça serait de guérir les personnes qui ont cette maladie. sachant qu'on l'a à plus ou moins fort degré, à plus ou moins des moments différents, mais c'est un peu ça le projet, quoi. Voilà, une émission pour curer tout ça.
Voilà, parce que du coup, un peu, il me semble que le HIIT en médecine, c'est pour parler d'inflammation ou d'inflammation aiguë, quelque chose comme ça. Alors, c'est pour ça qu'on parle de tendance aiguë. C'est ce truc un peu fort, là. Et puis, qui est, en fait, c'est assez invisible quand ça se passe, parce qu'en fait, ça se passe tout le temps. Je pense que tout le monde est à des moments amené, ou a été à des moments amené à faire de la renversionnite. Et en fait, du coup, c'est comment on prend conscience de ces mécanismes-là pour ne pas les reproduire. Et du coup, à un moment, comment aussi on se concentre sur le comportement des dominants pour dire bon, bah, voilà, ce qu'on veut ou non reproduire dans notre société ou dans nos comportements. Et du coup, tu veux enchaîner ? Non, ok. Et du coup, et ben voilà, ça nous semblait vraiment hyper important de mettre un mot là-dessus et aussi du coup de mettre d'inventer un mot parce que des fois on a tendance à penser que de mettre des mots sur les choses, ça les fait exister tout ça. Sauf qu'en fait ça existe tout le temps. Et quand on est confronté à ça, et je pense tous autour de la table, on a été confronté à des situations où on critiquait des personnes qui ne voulaient pas entendre et qui faisaient de la renversionnite pour se protéger des critiques qu'on pouvait lui faire. En fait, ça reste, on s'en souvient, quoi. Je veux dire, la renversionnite, on la vit une fois, on se la prend une fois dans la gueule et on s'en souvient. Et du coup, finalement, c'est quelque chose pour plein de personnes, c'est hyper présent. Ça a vraiment une existence très concrète, mais il n'y a pas de mots pour en parler. Enfin si, maintenant il y a un mot.
La renversionnite, oui.
Est-ce qu'on va réussir à l'institutionnaliser ?
Oui, je crois.
Voilà, et du coup...
Moi, je voulais revenir sur ce que tu disais de les mots, ça fait exister. Parce qu'il y a un peu un imaginaire que si on pose un mot, ça veut dire qu'on fait exister une situation. Et moi, dans des dynamiques féministes, je me suis bien rendu compte du contraire. C'est qu'en fait, les mots, ça permet de nommer une situation et ensuite de la partager. Donc, d'une certaine manière, ça prend plus de réalité, mais c'est une réalité qui est moins chaos, quoi, qui permet vraiment de pouvoir être partagée et de pouvoir faire partie d'une lutte.
Ben oui, parce que quand tu parles de partager, en fait, ce mot et en tout cas cette réalité-là, et de pouvoir se dire qu'on la partage, c'est important, en fait. Moi, ça me ramène tout de suite à cette idée que la renversionnite, c'est très lié à l'intersectionnalité des luttes. Et parce que c'est un concept en fait, en définitive, et ça on va le voir au travers des interviews et tout au long de l'émission, qui nous rappelle sans cesse en fait que finalement il y a des mécanismes qui traversent les différentes oppressions. Notamment, ça, en fait, s'intéresser à la renversionnite, c'est aussi pouvoir se dire que, à certains moments, c'est pas forcément l'oppression en elle-même qui doit être dénoncée, mais plutôt le statut de la personne qui nécessite réflexion, en fait. Et notamment, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir quand on a abordé le sujet, à cette habitude qui a été prise dans plusieurs milieux, qui peut être d'édifier des chartres de comportement à avoir, notamment un comportement à avoir quand on rentre dans un milieu qui est féministe, ou de comportement à avoir quand on rentre dans un milieu de Gwyn, ou dans un milieu où il y a des personnes trans, comment faire pour leur parler à ces personnes-là. Et où souvent, je me suis rendu compte que dans ces espaces-là, j'étais pas à l'abri, malgré toutes ces chartres et toutes ces recommandations. Et j'étais pas à l'abri de quoi ? J'étais pas à l'abri de la renversionnite. C'est-à-dire des personnes qui, à un moment donné, se sentent pas à l'aise dans cet espace-là et qui vont rechercher de la sympathie de ma part, en fait. Et sur quoi est-ce qu'elles vont jouer ? Sur ma capacité à être sympathisant parce que je suis oppressée. Et elles vont le faire en se sentant elles-mêmes oppressées à ce moment-là.
Donc c'est oppressées par la chartre.
Oppressées par la chartre, exactement. Donc c'est là où ça devient très intéressant, en fait, ce concept aussi.
Comment à un moment des outils sont mis en place pour prendre soin de personnes et espérer diminuer à un moment des situations d'oppression, puis qui finalement se transforment en des personnes, elles se sentent oppressées parce qu'on leur dirait ce qu'il faut qu'elles fassent.
Ouais, parce que moi, il y a un truc, je trouve ça que c'est extrêmement important de prendre soin des personnes qui nous entourent, de notre communauté et tout ça. Mais je trouve que quand on invente des mots ou quand on invente des règles, au bout d'un moment, ça devient des mots ou des règles valises. C'est-à-dire que on a créé un outil, par exemple un mot, et puis à un moment, il est diffusé d'une manière où les gens ils l'emploient pour plein de choses et des choses qui sont aussi inverses. Genre, on peut faire de la renversionnite sur la renversionnite, quoi. Et du coup, c'est pas le but dans l'émission de faire ça, mais de vraiment d'être attentive à des moments où on crée des outils et de savoir si c'est toujours pertinent de l'utiliser comme ça et comment ça devient pas un espèce de réflexe où derrière il y a plus de réflexion. Et pour moi, là, à ce moment-là, notre langage, il commence à mourir en fait.
Alors, peut-être après, on voulait enchaîner, mais avant, il y a une des bases qu'on voulait reposer, une des bases politiques quoi, sur lesquelles on s'est basé, qui était de faire la différence entre être à l'aise ou être mal à l'aise et être oppressé ou opprimé. Et être dominant. Et qu'à un moment, c'est pas pareil de se sentir dans un endroit mal à l'aise parce qu'il y a une charte, par exemple, mais... et d'être oppressé dans un endroit parce qu'on est minorisé et qu'on est, qu'on est opprimé en fait dans une structure sociale. C'est-à-dire qu'à un moment, quand globalement la société elle privilégie et elle donne des privilèges à toute une partie de la population, même si à un moment cette partie de la population peut être mal à l'aise, ça remet pas en cause le fait qu'elle a ses privilèges et qu'elle a cette position dominante. Et que du coup à un moment c'est pas pareil de se sentir oppressé ou opprimé et de se sentir mal à l'aise. Et en fait c'est souvent sur la confusion entre ces mots-là que peut se jouer la renversionnite. Et du coup avant tout on voulait reposer ça. Et alors, on va écouter un morceau. Qui c'est qui le présente ? C'est moi, je le connais pas, en fait. C'est pour ça. Hein.
Alors, du coup, c'est un tout petit bout. Ça pourrait être comme un jingle de la renversionnite et de comment ça parle aux personnes, ce terme qu'on a inventé.
Mais en fait, on n'a pas cet extrait-là de musique. On ne l'a pas transbahuté sur l'ordinateur, on l'avait oublié.
Eh ben zut, c'est pas
grave.
Mais
par contre, il y a le morceau de musique d'une personne qui chante en anglais dont je ne connais pas le nom.
Comment ça, tu ne connais pas son nom ? Tu parles du morceau que...
Qu'on vient de charger.
Très bien, alors il s'agit de Lauryn Hill avec Mr. Intentional.
Merci.
system that seeks to suck your blood, held emotionally hostage by what everybody does, counting all the money that you give them just because, exploiting ignorance in the name of love. Stop before you drop, because that's just the way it was. Please don't justify me, Mr. Intentional, or one dimensional, Mr. Intentional. Oh, 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 don't you do me any favors.
Et voilà, nous sommes toujours sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Et maintenant, on va écouter le morceau surprise.
Ça te parle, la renversionnite ?
Grave.
Ouais, sûr.
Ah ouais, grave, carrément. La renversionnite, mais carrément.
Oui, alors maintenant qu'on en a parlé juste avant, oui, oui.
Oui, ça me parle.
J'adore le concept. Il faut en parler.
Alors voilà, c'est parce qu'en fait, ça parle à beaucoup de gens, cette histoire de renversionnite, finalement, même si ça n'existe pas encore réellement, même si on n'a pas encore 1000 mots dans le dictionnaire Larousse, ça nous parle. Alors, du coup, après, maintenant, on voulait on a fait plusieurs interviews où on a demandé à des personnes de nous parler de situations qu'elles ont vécues où il y avait réellement un truc de renversionnite qui se passait, du coup, de raconter des situations de renversionnite et de nous expliquer après les enjeux, qu'est-ce qui se passe, et de décrypter un peu ces situations. Du coup, on a plusieurs petit montage à vous passer, et le premier qu'on voulait vous proposer, c'est un sur le masculinisme, parce que voilà, on trouvait que le masculinisme, c'était un truc assez évident de renversionnite, et du coup on a fait une petite interview et qu'on va écouter maintenant.
Bah, nous, justement, quand on a travaillé sur le masculinisme, le point de départ, c'est exactement ça. C'est comment un groupe de dominants se retrouve dans des positions de dominer dans le discours, quoi, de leur point de vue, et renverse les rapports de domination. Peut-être que c'est plus clair de voir plutôt historiquement comment le mouvement masculiniste il s'est mis en place. On a commencé à voir des groupes d'hommes s'organiser au moment où il y a eu la loi sur le divorce. Et là, face à une avancée quand même sociale pour tout le monde, mais notamment pour les femmes qui pouvaient quitter leur mari. Et là, les hommes ont commencé à s'organiser contre le divorce, quoi. Donc ça a commencé comme ça. Bah, ils sont dans le renversement déjà de base, parce que ce qui est commun à tous ces groupes masculinistes qui soient de tendance dure ou douce, entre guillemets, c'est de considérer qu'aujourd'hui, l'égalité, elle est là, entre les hommes et les femmes, et que les féministes vont trop loin. Donc ça, c'est quand même commun à tous. Après, pour la frange la plus dure, effectivement, eux, ils vont parler carrément de prise de pouvoir des femmes, qu'aujourd'hui la société se féminise. Du coup, les hommes se retrouvent en perte d'identité et relégués en seconde zone, quoi. Donc ça, c'est quand même un sacré renversement. Donc voilà, en quoi ils sont dans la renversionnite. Le discours ou les revendications qui consistent à renverser les rapports de domination provoquent un effet frein par rapport aux luttes qui sont menées, quoi. On n'a plus la légitimité en tant que dominé à lutter parce qu'en face on a une négation des rapports de domination Et du coup, ouais, c'est ça, ça crée un discrédit, a priori, sur les groupes de dominés. C'est sûr que ça crée la division, d'une part, et puis d'autre part, au sein même des personnes qui pourraient se mettre en lutte ou qui sont dans des situations d'oppression, ça sème le doute. Ouais, ça empêche ce qu'on appelle l'empowerment, quoi, le fait de se sentir fort et forte et légitime à dénoncer les situations d'oppression, quoi, et à lutter contre. Je sais pas pourquoi, mais me vient tout d'un coup le dernier numéro de Cosette. Pour moi, c'est vraiment un exemple frappant de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'un magazine qui était censé être plutôt sur des positions féministes... bon, féministe vite fait, hein, c'est quand même une revue grand public, mais sur des positions progressistes, là, est en train de devenir un sacré torchon, parce que le dernier numéro, il est sur ceux qui s'auto-définissent comme les pères malgré eux. Donc ces hommes... qui, après avoir eu des relations avec des femmes, apprennent à un moment donné qu'un enfant est né de ces relations et qui crient à l'injustice, qui se plaignent en fait d'avoir été manipulés. Carrément, certains disent que c'est comme un viol parce qu'on leur a fait des enfants dans le dos, etc. Et en fait, le dernier numéro de Cosette consacre tout un dossier là-dessus en faveur de ces hommes-là qui sont considérés comme des victimes. Et à aucun moment on pose la question de la contraception masculine ou même de la contraception tout court, en tout cas de la prise en charge de la charge mentale que c'est de ne pas engendrer des grossesses, en fait. Et à aucun moment il n'y a personne qui leur dit « Mais en fait, les gars, quand vous éjaculez dans des vagins, ça peut avoir des conséquences, en fait. Est-ce que vous savez comment on fait un bébé, les gars, quoi ?» enfin... Si t'es clair avec le fait que tu veux pas d'enfant, et ben, y a des moyens qui existent et qui sont pas très compliqués à mettre en place, quoi. Puis bon, on parle pas non plus... Enfin, ces cas-là de pères, malgré eux, entre guillemets, c'est des cas... Enfin, c'est des épiphénomènes, encore une fois. C'est 5 cas par an, comparé aux centaines, je pense, de milliers d'enfants qui naissent de relations comme ça, éphémères, et dont les mères assument totalement la charge... Bah, le renversement, c'est encore ça, quoi. C'est ces hommes qui prennent pas leurs responsabilités, qui deviennent des victimes, quoi.
Mais c'est vrai que ces logiques de renversement, c'est vraiment aussi, je trouve, ce truc particulier de toujours s'appuyer sur ces petites anecdotes ou ces épiphénomènes pour en faire des phénomènes massifs. Ça, c'est vraiment de la malhonnêteté intellectuelle, quoi. C'est vraiment dégueulasse, en fait. Enfin, de toute façon, c'est toujours l'argument anti-féministe de base aussi de dire « Ah oui, mais les femmes, elles peuvent être méchantes aussi. Ben, » Heureusement, les femmes aussi, elles ont le droit d'être méchantes, bêtes, manipulatrices ou je sais pas quoi, mais ça n'empêche que, en fait, ça n'annule pas le rapport social, quoi.
Voilà, alors vous êtes toujours sur Dégenrer, l'émission féministe pour déranger. Et alors on vient d'écouter une petite interview sur le masculinisme et comment le masculinisme renverse justement clairement la situation de domination en faisant passer du coup les hommes pour des personnes qui seraient oppressées par les femmes, alors même que dans la structure de la société, il est clair qu'on vit dans une société patriarcale et que c'est les hommes qui ont le pouvoir. Et dès qu'à un moment ce pouvoir il va être remis en cause, et ben ça va susciter voilà tout un tas de choses. On va être accusé de créer des pertes de repères, de fabriquer des fragilités, de oppresser des personnes, etc. par notre lutte et par ce qu'on gagne dans notre lutte. Et du coup, par exemple, un des trucs assez typiques de la renversionnite, il y a cette question de la perte de repères. Et à chaque fois qu'on va créer des formes d'émancipation et de casser le modèle dominant, parce que comme le modèle dominant, c'est la normalité, à un moment, quand on s'émancipe et quand on casse ce modèle dominant, on va effectivement casser les repères dominants et casser la normalité. Et à un moment, eh ben, hop, cette fracture de repères, là, ce truc de perte de repères, il va être posé comme un truc négatif, alors même que c'est positif parce que c'est émancipateur pour tout un tas de personnes qui sont oppressées. Du coup, voilà, toute la question des pertes de repères, vraiment, c'est important toujours de quand on nous sort l'argument de la perte des repères, c'est vraiment important d'avoir ça en tête, en fait. Que bah oui, si on perd les repères dominants, bah, peut-être c'est bien, finalement. Voilà, et c'est sûr que, ben, comme on disait dans l'intro, ça va mettre mal à l'aise des personnes dominantes qui sont habituées à être normales et partout bien, tout partout à l'aise dans le monde. Ben, à un moment, dans certaines situations, elles vont être mal à l'aise, mais c'est juste parce que, ben, à un moment, elles vont pas être dans des espaces où elles sont dominantes et où elles ont tous leurs repères habituels, et du coup, elles vont être mal à l'aise, mais c'est pas ça qui va faire qu'elles vont être oppressées dans une lecture. Bah voilà, bah en fait, elles vont pas être ni oppressées ni opprimées par la situation, en fait, par la société. En fait, elles vont être juste avec moins de repères dominants.
C'est un peu que quand tu es dans une situation désagréable, par exemple quand tu es mal calé sur ta chaise, tu peux te déplacer. Ce n'est pas la même chose qu'une norme qui va te demander de rester à ta place.
Voilà, parce que finalement, quand on nous renvoie que quand on s'émancipe, on casse des repères, finalement, ce qu'on nous dit, c'est tu vas rester à ta place et tu ne vas pas venir chambouler les repères, tu ne vas pas venir chambouler la normalité et tu ne vas pas venir chambouler la domination. Du coup, assez systématiquement, finalement, ces renversements, c'est une injonction à rester à sa place, vraiment une obligation à ne pas venir heurter le monde normal et finalement la structure qui existe et qu'il faudrait qu'elle reste absolument comme ça pour le bien-être de tous, sachant que ce qu'on appelle le bien-être de tous, c'est le bien-être des personnes dominantes.
Et alors moi, ça me donne envie de réagir et de prolonger un peu cette réflexion, parce que c'est vrai qu'il y a les masculinistes qui, là c'était un exemple assez frappant, mais il y a aussi un autre type de gars, cis, qui peuvent chouiner parfois. Ce sont donc les hommes qui se définissent pro-féministes ou féministes tout court. Et là, moi, ça m'interpelle pas mal sur cette question de renversionnite. J'ai vécu des situations à plusieurs reprises où je me retrouvais face à un homme cis qui me disait « Oh oui, j'ai trop de privilèges, je sais pas quoi en faire. » Du coup, qui me disait « Je sais que je suis un homme que je suis un homme et que du coup, ça me donne des privilèges par rapport à toi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire ?» Là, c'est le moment où je tape un peu pression dans ma tête, quoi, où je me dis « Non mais c'est incroyable la situation que je suis en train de vivre. J'ai face à moi un homme qui est bardé de privilèges et qui ne sait pas quoi en faire. Mais c'est fantastique quand même. » Non mais franchement, le message pour moi là, et je pense qu'il est important d'être entendu, c'est que il y a un moment donné où les luttes féministes, elles sont pas faites en fait pour affaiblir les gens. Elles sont pas faites pour que on me remette à ma place constamment de dominer de personnes faibles. En fait, il y a un moment donné où c'est important aussi de se rendre compte de ce qu'on a et de savoir s'en servir à bon escient. Et je pense qu'il y a toute une réflexion à mener sur ça, parce qu'il y a plein de fois où en fait je me retrouve à devoir réconforter ou à devoir dire à la personne non mais oui, c'est pas grave que tu sois un homme et que t'aies plein de privilèges parce que finalement t'es féministe. Donc, ou alors que parce que finalement t'es en sympathie ou en empathie avec les luttes féministes. Je crois qu'effectivement, il y a d'un côté les masculinistes, ça c'est sûr, mais il y a aussi les hommes féministes ou en tout cas qui sont sensibles à ces questions-là et qui doivent se prendre en main aussi et arrêter de chouiner. Parce que c'est possible de faire plein de choses en fait. C'est vraiment possible et vous pouvez même en discuter.
Et alors là, c'est une transition magnifique, puisque du coup, l'interview suivante, c'est l'interview d'une copine qui est trans, et elle, du coup, elle parle beaucoup de ça, de qui on prend soin, en fait, de qui on va prendre soin, de qui il faut prendre soin, qui est triste des situations, qui souffre des situations, et à un moment, comment ces choses se décalent et se renversent, et comment, finalement, on a toujours l'impression que ce seraient les personnes dominantes qui souffriraient des situations.
Quand j'ai décidé de transitionner, que j'en ai parlé à ma mère, elle m'a beaucoup renvoyé des trucs de « Ah, qu'est-ce que tu me fais vivre ? Tu comprends pas dans quel état je suis ?» et tout ça. Et particulièrement, en fait, j'ai transitionné un peu avant Noël. Et donc, à Noël, je suis pas allé chez ma mère. Et ma sœur a décidé de pas y aller non plus. Elle est venue passer Noël avec moi. Et à ce moment-là, ma mère a hyper mal vécu ça et a pas arrêté plus tard de me répéter un truc de « Ah mais quand même, ce que tu m'as fait vivre, c'était vraiment dur » et tout ça. Et de centrer un truc de « En fait, c'est elle qui était victime là de ce qui se passait. » Alors que le fait que j'ai décidé de pas y aller, c'est aussi qu'elle m'a envoyé énormément de choses trash dans la gueule. Et en fait, c'était de ma faute ce qui se passait et pas de la sienne. Ma mère, là, au lieu d'accepter qu'elle avait fait de la merde et de je sais pas, de s'excuser ou je sais pas quoi faire par rapport à ça. Elle a préféré dire que c'était de ma faute ce qui se passait. Comme ça, c'était elle qui était victime et c'était elle qui était à plaindre. Et c'était elle à qui on devait faire attention et il fallait tout remettre en question ce qu'elle avait fait, quoi. J'ai un pote trans qui n'allait plus à la bibliothèque féministe. Moi, je ne savais pas pourquoi. À un moment, des personnes cis m'ont expliqué pourquoi elle n'y allait pas, dans un truc de, soi-disant, cette personne trans, comme c'est un trans F2M et qui a un aspect très masculin, n'y allait pas dans un truc de... pas qu'il y ait des meufs qui viennent, qui soient mal à l'aise, parce qu'elles ont l'impression de venir dans une non-mixité de meufs, et donc de ne pas avoir envie que ces meufs ne soient pas à l'aise de, quand elles rentrent dans la non-mixité. Et puis après, plus tard, j'ai discuté avec ce pote trans et en fait, il se sentait plus d'y aller parce que lui, il était mal à l'aise dans ces situations-là. Et comment, en fait, des meufs cis ont choisi d'interpréter ça, de la façon dont ça les arrangeait, ça les remettait pas en cause sur ce qui se passait. Et ben, moi, je trouve que c'est un exemple qui est plus complexe que les autres exemples que j'ai donnés sur qu'est-ce que c'est la renversionnite. Parce que il y a ce truc de renversement de c'est pas la personne trans qui est mal à l'aise, mais c'est les meufs cis là qui sont mal à l'aise. Et donc on renverse ce qui se passe dans les rapports d'oppression et de qui c'est qui est mis mal à l'aise par qui. Mais ce qui est, je trouve, vraiment vicieux dans cet exemple-là de la part des meufs cis qui ont répété ça, c'est qu'elles le disent pas en leur nom. Elles le disent comme si c'était la personne trans qui avait dit ça. Et si jamais j'avais pas eu la discussion avec la personne trans, j'aurais pas capté ce qui se passait. Ça renforce une chose que... être féministe, c'est faire attention aux meufs cis, et donc même quand t'es trans, tu dois faire attention aux meufs cis, même si vis-à-vis d'elles, c'est peut-être toi qui vis des trucs d'oppression. Moi, par exemple, quand j'ai transitionné, eh ben, je suis arrivé dans ce milieu-là, donc en ayant vécu avant en tant que gars, et être gay et avoir une construction masculine, et donc de pas oser parler de plein de choses de ce que je pouvais vivre, parce que le milieu féministe a une image et montre un truc de « il faut faire attention aux meufs cis », et moi, j'ai une construction de gars, donc forcément, j'ai des comportements oppresseurs.
Comme si c'était hier, des baffes dans la gueule et des déceptions amères de mes amis qui se sentaient une âme de missionnaire et s'immisçaient dans mon passé en pensant pouvoir me dissuader de transitionner.
Comme si ton choix ne comptait pas, comme s'il suffisait d'argumenter pour te faire changer d'avis, vu que ta vie ne valait rien devant leur volonté de te voir redevenir comme avant.
Avant, c'était quand je pleurais seul le soir, perdu dans la pénombre de mes pensées, quand je pensais à me foutre en l'air parce que le masque que je portais ne laissait plus passer d'air, m'empêchait de vivre qui j'étais. Je me souviens comme si c'était hier, quand je devais répondre aux multiples questionnaires, passer tous ces examens où il fallait décrocher la mention bien, pour que les keufs de la moralité me foutent enfin la paix.
Mais pourquoi tu transitionnes? Tu veux pas devenir un gay quand même? Puis, qu'est-ce que ça va faire si tu prends des hormones? Et si tu transitionnes, tu seras plus féministe?
Je me souviens de toutes ces réflexions qui m'attristaient,
de tes amis qui te traitaient comme un enfant et agissaient pire que des parents. T'en aurais bien rigolé si ces caricatures ridicules n'avaient pas marqué ton cœur exposé de cicatrices indélébiles.
Je me souviens de ceux qui s'arrachaient les cheveux en se demandant pourquoi je leur faisais ça, et de celles qui me pleuraient dans les bras parce qu'elles s'inquiétaient pour moi,
ou encore de ceux qui promettaient sérieusement de te dérouiller si tu devenais violent avec la thé.
Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié que la testo ça rendait macho.
Je me souviens de celles qui disaient que ça te passerait, qui croyaient dur comme fer que c'était une crise passagère, et puis tous ces silences qui en disaient long sur leur dose d'incompréhension. Je me souviens de toutes ces bios, pas toutes hétéros, qui te jugeaient projetant leurs préjugés et leurs peurs sur ton parcours, sans percuter leurs privilèges et leurs places.
On n'appartient pas à la même classe, moi j'ai pas de case à cocher, je suis pas dans les petits papiers de la binarité. Je suis psychiatrisé, ausculté, insulté, humilié, c'est le prix que je paye pour exister.
Mais alors t'es une fille ou t'es un garçon?
Et qu'est-ce que je dois regarder, mon vagin?
Ou mes poils au menton?
Je me souviens comme si c'était hier, avec tellement de colère. Enragé de voir que mes amis s'engageaient aux côtés de la société pour établir l'ordre moral. Et tant pis pour mon moral. Je pouvais toujours râler pour les relents de normalité qu'ils me gerbaient au nez. C'était pas prêt de changer, même après des années. Je me souviens comme si c'était hier. Parce qu'encore aujourd'hui, quand un pote transitionne, y'a toujours des teubés pour lui demander de se justifier.
Alors voilà, vous venez d'écouter Viscéralement Déviant avec leur morceau Je me souviens. Alors voilà, encore Viscéralement Déviant dans le top 10, quoi, qui ont encore fait un morceau qui colle parfaitement à notre sujet d'aujourd'hui.
Super d'entendre ce morceau. Alors moi, j'aimerais bien enfoncer un petit peu plus le clou de ce que vous venez d'entendre au niveau de l'interview. Pour les personnes qui ne savent pas, qui ne me connaissent pas, qui ne vont pas reconnaître ma voix, je suis une personne trans, donc, et je demande aux personnes, quand elles s'adressent à moi, d'utiliser le pronom « il ». La personne avant était une personne trans qui demande qu'on utilise le pronom « elle ». Et quand on discutait de ces situations-là, il nous est apparu en fait, qu'on pouvait être victime de même genre de situation. Mais... un peu de manière un peu inverse, mais de toute façon, ça ramène au même résultat. Donc, je vais vous raconter en quelques mots une histoire que j'ai pu vivre et qui exprime très bien ça. Alors, j'étais en embrouille avec une personne et il se trouve qu'elle m'avait fait un sale coup et je la revois devant chez moi. Donc, je m'énerve en disant « Mais en fait, qu'est-ce que tu fais là ?» Et cette personne s'énerve à son tour en disant « Allez, vas-y !» Et en sachant très bien que j'étais une personne trans, dit « Allez, vas-y, tu t'énerves, vas-y, tu veux montrer que t'en as plein, mets tes couilles sur la table, vas-y, énerve-toi. » Et là, il y a le chevalier servant, un homme cis, qui arrive et qui prend la défense de la personne en face, qui sait, cette personne cis féministe, elle sait très bien que moi je suis une personne trans et que donc, en l'occurrence, je n'ai pas de couilles. Je n'ai pas de couilles. Néanmoins, comme je m'étais énervée, il fallait qu'on me ramène à cette image masculine, viriliste, et donc qu'on puisse comme ça discréditer mon énervement.
Et donc, comme si tu étais une personne dominante, ce qui est fou.
Comme si j'étais une personne dominante, tout à fait, tout à fait. Et cela, en étant aidée d'une personne cis et blanche, homme, qui, elle, est cette personne dominante, et en la prenant à partie dans cette histoire-là. Et alors ça, c'était vraiment une histoire qui m'a vraiment pas mal foutu en l'air, parce que dans cette situation, je me suis retrouvée vraiment incapable d'exprimer non seulement à mon amie féministe, en fait, qu'elle était en train de me faire vivre une situation hyper trash, mais aussi qu'elle m'invisibilisait complètement dans mon vécu, en fait. Et comme si tout d'un coup, quelle que soit ma position, en fait, ce qui m'était reproché, c'était pas tellement le fond de notre discussion, mais simplement d'être une personne trans avec un genre d'arrivée qui était plutôt « il ». Et ce qui était rigolo, c'était de prendre appui sur une personne qui était cis homme. Et dans l'exemple qui est montré, c'est souvent ça en fait. C'est que les personnes trans sont souvent ramenées dans les milieux féministes à la masculinité. Et donc, il faut prendre le parti, ou on va demander de prendre le parti aux personnes qui sont cis féminines. Et donc, on reste dans cette vision binaire homme-femme qui invisibilise complètement le fait qu'en tant que personne trans, on est en train de vivre une agression, une renversion du système de domination, tout simplement.
Qu'en fait, une personne trans, quelle que soit sa transition, qu'elle aille vers une identité plus féminine ou qu'elle aille vers une identité plus masculine, elle est toujours renvoyée au masculin, donc à au masculin dans une vision que le masculin serait la domination et pas les hommes cis qui seraient dominants,
tout
à fait.
Bien
le masculin
le
qui
masculin.
Serait quelque chose de dominant, et elles sont toujours renvoyées à du masculin et à de la domination. Du coup, une personne qui transitionnerait vers une identité plus masculine, on lui renverrait qu'elle va vers une identité d'homme, donc qu'elle serait dominante. trans-militante et une personne trans-féminine, on lui renverrait que finalement, elle a été assignée garçon à la naissance, alors forcément, elle est dominante. Alors même que, et du coup, ça fait une négation de son identité de personne trans, qui est du coup une identité oppressée dans notre société cis.
Tout à fait. Invisibilisé complètement. Moi, dans cette situation-là, j'avoue que j'ai trouvé ça tellement ridicule que j'ai même pas su réagir, en fait. Pose tes couilles sur la table. Bon, en fait, qu'est-ce que je... Comment t'expliquer, quoi? En fait, c'est assez délicat. Ça amène dans plein de situations, je pense, et ça a été assez bien exprimé dans l'interview, je crois. Ça amène à se demander comment on fait pour interagir avec les personnes, sur quoi, comment on fait pour être présent, pas présent. En fait, qui est gêné, finalement.
Et moi, alors, ça m'emmène à un peu un truc... un tout petit peu différent, qui est finalement qui juge, qui a l'autorité et qui est légitime à s'exprimer et qui va être reconnu du coup dans sa position. C'est-à-dire qu'à un moment, comment une personne dominante, par exemple dans la situation comme ça, comment une personne cis va avoir systématiquement raison parce qu'elle est cis, donc elle est reconnue et elle a le droit de juger parce qu'elle est détentrice de l'autorité. Et qu'à un moment, on va toujours plus s'apitoyer sur une personne dominante qui souffre que sur une personne opprimée qui va souffrir. Et que du coup, on va s'attacher à la souffrance des dominants. Bon, c'est un truc assez caractéristique dans le cinéma, par exemple, où on va souvent montrer des situations de souffrance de personnes dominantes qui ont du pouvoir, et c'est là-dessus qu'on va s'apitoyer, alors qu'une personne opprimée qui souffre, bon, bah, c'est normal, hein, c'est comme ça le monde, on le sait quand même. Alors que, voilà, et sauf que ça conserve ce pouvoir, et finalement... Eh ben, on va rester comme centré sur les personnes dominantes et du coup continuer à leur donner cette légitimité et à leur donner cette autorité. Et du coup, à leur laisser le droit de juger des situations. Et du coup, leur laisser le droit de juger les situations, c'est leur laisser le droit de décider qui est opprimé et qui ne l'est pas. Et donc, leur laisser le droit de faire de la renversionnite.
Parfaitement. Et d'ailleurs, ce qui était dit dans l'interview, c'est que c'était dans les milieux féministes. Moi, j'aimerais quand même ajouter, parce que j'ai choisi cet exemple à propos, c'est que c'est pas que dans les milieux féministes, en fait. C'est dans, je veux dire, ça, c'est possible de le faire constamment dans tous les espaces, en fait. En définitive, dans le monde, dans l'espace public, une personne trans, elle est toujours considérée comme suspecte, de toute façon. Soit parce qu'elle est traître dans les milieux féministes, soit parce qu'elle est usurpatrice, en fait. Et ça, il faudrait pouvoir le garder à l'esprit. Parce que ça va être le leitmotiv du fait qu'on se retrouve avec des mecs cis, pas du tout féministes, pas du tout au courant, qui vont pouvoir s'indigner qu'une autre personne, sous prétexte qu'elle a une attitude ou une apparence masculine, peut être plus viriliste qu'elle. C'est quand même franchement drôle, quoi.
Est-ce que tu veux introduire l'interview suivante ?
Eh bien, l'interview suivante, elle va être assez intéressante quand on parle de binarité, puisqu'on va faire une interview sur le racisme anti-blanc. Et je développerai un petit peu plus tard pourquoi est-ce que, de toute façon, ça me ramène toujours à ce côté être dedans, dehors, être blanc, être noir, être racisé, être ce que vous voulez. Et donc, voilà, on peut écouter.
Conversionnisme, c'est quand l'oppresseur choisit de partager avec toi son ressenti d'oppressé. Une copine m'avait invité dans une discussion sur le sexisme, l'homophobie et puis plein d'autres trucs. Bon, j'étais la seule personne noire de la discussion. Très vite, j'ai parlé de racisme ou des agressions racistes que j'ai pu subir. Et à côté de moi, il y avait cette jeune femme cis, blonde, rurale, sûrement un peu décoloniale, qui à chaque fois que je parlais de quelque chose, elle me disait « mais moi aussi ». Et du coup, quand je racontais des situations exotisantes, elle me disait « mais moi aussi, je subis parce que je suis une femme ». Et du coup, quand je suis une femme et que je suis dans un bar, on me drague. Du coup, je la regardais, je disais, mais en fait, je crois qu'on parle pas de la même chose. Elle disait, si, moi aussi, je sais ce que c'est que de vivre une oppression. Je raconte une autre anecdote, et encore une fois, moi aussi, je sais ce que c'est. Mais elle avait une anecdote qui avait rien à voir avec ce que je disais. Du coup, elle me balançait des situations de misogynie qu'elle a pu voir, et en insistant bien sur le fait que, en fait, c'est pas parce que t'es noir que tu vis ça, c'est parce que le monde est pourri, c'est parce que tout le monde est méchant, et tu parles comme si tu étais la seule personne de cette pièce à avoir souffert des oppressions, mais moi je suis une femme et je suis oppressée aussi. C'est des situations qui sont douloureuses, et le premier truc qui fait dire que la renversionnite c'est de la merde, c'est que ça invisibilise complètement nos vécus, nos souffrances. Après, pour moi, le renversionnisme, ça va aussi avec d'autres types d'arguments ou d'échanges. Ça me renvoie aussi à tous ces blancs qui sont tellement citoyens du monde que quand on leur parle de racisme, ils sont choqués. Ou quand on leur parle de nos stratégies face au racisme, ils sont choqués. Il y a beaucoup de situations où j'ai dû réconforter la personne en face. Il y a une personne qui m'a trashé toute une soirée en me disant comment c'était dur d'être blanche, d'être hétéro, de vivre avec des lesbiennes. Elle a fini par pleurer et à la fin, elle m'a demandé de lui faire un câlin. Et en vrai, j'ai passé toute une partie de la soirée à essayer de lui expliquer des choses, l'autre partie de la soirée à m'énerver. Et encore une fois, j'étais la seule personne noire de la pièce. Et en vrai, j'ai même pas eu, encore après ça, la force de l'envoyer chier et de lui dire qu'en fait, elle avait pas le droit de me demander ça. Il y a des retours que j'ai de personnes avec qui j'ai parlé de leur racisme et de comment ça a pu être trash pour moi. Et les retours étaient de l'ordre de « je me sens hyper mal ». Ou des personnes qui pleurent aussi. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve insupportable. Dans la plupart, moi, des situations que je vis depuis plus de 30 ans, il y en a très peu où j'ai pleuré. C'est assez rare parce que tu peux pas pleurer à chaque fois que tu te prends un truc dans la gueule. T'encaisses, ça te laisse... un truc là, une blessure, une gêne, un truc qui te revient le lendemain, qui te revient forcément parce qu'il y en aura d'autres. Et en fait, moi, de voir des personnes blanches qui se mettent à chialer dès qu'on leur dit que ça, elles n'ont pas le droit de le dire, que ça, elles n'ont pas le droit de le faire, que c'est grâce à leur privilège qu'elles peuvent faire ci ou ça, mais je trouve ça hyper violent. C'est d'autant plus douloureux que je pense que c'est une méthode que j'ai aussi adoptée quand j'étais plus jeune pour être un peu acceptée dans des milieux blancs. Il fallait que je sois de connivence avec eux quand ils parlaient des agressions racistes anti-blanches qu'ils ont pu vivre. Quand ils disaient par exemple que voilà que le mot guerre était hyper raciste, hyper dur, que rien que le fait que le mot guerre existe prouve qu'il y a le racisme anti-blanc. Donc guerre, c'est... une autre manière de dire blanc qui est péjorative. Et du coup, en fait, d'être considérée comme une personne noire acceptable parce que je pouvais comprendre et parce que je pouvais compatir à leur douleur. Je crois que c'est aussi beaucoup pour ça que le renversionnisme, c'est quelque chose qui me fait mal, c'est que ça me rappelle que c'est quelque chose que j'ai dû accepter en tant que stratégie. Il y a eu un moment dans ma vie où je pensais qu'on était tous égaux et qu'il fallait que tout le monde se débarrasse de son racisme, y compris, voire surtout, les personnes racisées, parce que si même elles ne comprenaient pas le racisme, si même elles ne faisaient pas l'effort de gommer leur racisme anti-blanc, on pourrait pas y arriver. La renversionnite, elle est validée par tout un système, en fait. C'est aussi des défenses de personnes oppresseurs, oppresseuses. Enfin, moi, ça me remet toujours en lumière. Comme les blancs se sentent bien, c'est impossible pour eux de se dire qu'ils sont pas les bienvenus. Et en fait, qu'ils sont pas les bienvenus dans la discussion qu'on est en train d'avoir, ça veut aussi dire pour moi pas les bienvenus dans nos luttes, pas les bienvenus chez nous, pas les bienvenus en faisant du tourisme, pas les bienvenus en faisant de l'humanitaire, pas les bienvenus en venant me parasiter de toutes leurs anecdotes et de toutes les anecdotes qu'ils ont sur les personnes noires qu'ils ont pu croiser. Moi, ça me renvoie vachement à la colonisation. En fait, ils me colonisent, en fait, encore dans ces discussions-là, quoi. Et c'est encore moi qui me barre la plupart du temps. Et c'est encore moi qui dois chercher des stratégies. Et c'est encore moi qui dois faire de la pédagogie, alors que j'ai vraiment, vraiment, vraiment plein d'autres trucs à faire dans ma vie. Et notamment... essayer de vivre en tant que noir dans un système qui favorise les blancs, dans un système qui favorise l'Occident. Jusque-là, j'ai pas encore trouvé de stratégie qui me convienne. Plutôt de faire des retours après, à tête refroidie, par mail ou par personne interposée, par des alliés qui connaissent la personne. Mais le truc derrière, c'est que t'as aussi les retours. Et que, en fait, à ces mails-là, des fois, les personnes répondent et souvent s'enfoncent. J'utilise aussi la stratégie d'évitement qui fait aussi du bien. Ça me laisse pas moins en colère et c'est pas vraiment une stratégie que j'affectionne. Plutôt, j'aimerais bien réfléchir à des stratégies avec des personnes concernées.
Coucou. Coucou. Ça, c'était juste en fait pour vous rappeler que ça fait quand même, allez, 5 siècles qu'il y a des Noirs et des personnes racisées dans le coin, quoi. En fait, c'est juste un rappel. Ça, je le dis parce que quand je me promène dans la rue, des fois, j'ai l'impression que c'est une réalité toute neuve. Les gens, ils font des yeux ronds, là, quand ils me voient. Je comprends pas. C'est quand même assez dingue, quoi, que ce soit eux qui s'étonnent de ça. Comme si ils n'avaient pas été témoins de ça. Comme si ils n'étaient pas au courant de l'histoire, en fait. Comme si, tout d'un coup, il leur était arrivé une sorte de révélation, quoi. Ça, c'est hyper étonnant. Et c'est cette façon-là d'être capable de s'extraire tout d'un coup d'une histoire aussi vieille et aussi rabâchée, finalement, qui, moi, m'étonne toujours, en fait. Comme si ma place, elle était toujours remise en question, en fait. Tout simplement. La renversionnite, pour moi, à ce niveau-là, c'est ça. Ma place, mon existence, elle est toujours questionnée dans les regards des gens. Toujours. Et dans ce pays-là, toujours. Et ça, je le sais aujourd'hui. C'est sûr que je le sais. Et alors, comment c'est possible qu'on arrive comme ça, à faire comme si, eh ben, c'était moi qui était un intrus constant, en fait, qui était arrivé là par une émanation, je ne sais pas comment ça a pu se faire, mais c'est arrivé et vous n'êtes pas au courant. Vous ne savez pas qu'on existe. Vous ne savez pas que le racisme, ça existe. Vous ne savez pas que vous avez intégré du racisme. Il faut que je vous l'apprenne. Il faut qu'on vous l'apprenne encore, en fait. Il faut qu'on le redise. Vous n'êtes pas concerné. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est un sujet qui, à la fois, peut faire mal, peut fatiguer. Moi, ça me fatigue. Ça a aussi entre les deux. Cette façon dont on peut présenter cette réalité et invisibiliser le fait d'être blanc, là-dedans. Comme si, en fait, depuis toutes ces années-là, vous n'aviez pas les arguments théoriques pour changer ça, pour changer vos comportements. En fait, là, je pense que je suis vraiment radicale sur ça, sur ces comportements-là, parce que souvent, on me ramène à cette place où il faut que je juge et que je décide toujours de comment on va s'y prendre pour lutter contre le racisme. En fait, je vais le faire pour moi, je vais le faire pour ma gueule, ça c'est sûr, ça c'est certain. Mais vous aussi, vous êtes capable de le faire. Je pense que j'avais besoin de parler directement parce que c'est quelque chose que j'arrive pas à dire de manière assez claire aux gens quand ils s'indignent, mais en catimini, en venant me voir à la fin d'une discussion, « Oh, dis donc, c'était pas trop raciste ce truc ?» Mais tu le sais pas. Tu le sais pas, vraiment. C'est étonnant, vraiment étonnant. En fait, tu le sais. Tu le sais, tu le sais très bien. Et tu sais très bien ce que tu as intégré, en fait. Tu sais très bien comment c'est d'être un dominant. Tu le sais très bien ce que ça te donne. Il suffit de vouloir y renoncer, en fait. C'est pas compliqué. Et ça, c'est quelque chose qui me fout les boules. Parce que dans mes relations intimes, tous les jours, il y a eu cette question qui s'est posée, à un moment donné, où il a fallu que la personne, elle soit capable de se rendre compte que peut-être elle avait été habituée à être servie et que c'était pas moi tout seul dans mon rôle en fait qui me mettait à la servir, c'était aussi elle. Il faut qu'ils existent ces gens-là en fait et il faut qu'ils se voient.
Et tu voulais du coup aussi développer un truc, j'enchaîne, ça te va hein.
Ouais.
Tu voulais aussi développer un truc que tu as commencé à souligner là, qui est cette capacité à s'extraire comme si à un moment, et du coup de comment une personne dominante, du coup là dans les exemples, comment une personne blanche a le pouvoir et la capacité et la légitimité à un moment de s'extraire et de dire non mais moi je suis pas comme ça. Ou finalement, ça ne me regarde pas, ou de ne pas se rendre compte qu'elle est directement concernée.
Oui, c'est exactement ça. C'est que, en fait, c'est vraiment trop facile, à un moment donné, comme tout à l'heure j'ai dit, avec les gars qui ont trop de privilèges et qui ne savent pas quoi en faire. En réalité, il y a plein de choses à faire. C'est vraiment possible. Je ne saurais pas quoi rajouter de plus.
Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, ça va toucher sur des trucs comme qui sont hyper bien expliqués, très très bien clairement expliqués dans l'interview, où des personnes, parce qu'elles sont de gauche, ou parce qu'elles sont antiracistes, ou parce qu'elles sont citoyens du monde, enfin c'est l'exemple qui est donné dans l'interview, et ben comment ces personnes, du coup, ben c'est pas elles qui sont critiquées ou visées quand on parle de racisme, que quand il y a des choses qui sont écrites ou dites ou développées sur la question du racisme, ça les concernerait pas parce que elles, c'est pas pareil. Et que c'est ça, cette capacité là à se dire soi-même, moi je suis sexiste ou je suis pas sexiste, moi je suis raciste ou je suis pas raciste, et qu'à un moment c'est les dominants qui vont se définir eux-mêmes dans leur position comme étant ou non concernés par une critique, alors même que finalement c'est pas elles
c'est
de
pas
décider
elle. c'est vraiment pas elles. Et souvent d'ailleurs la dénégation totale quand on dit à la personne mais en fait là tu vois t'es en train de me mettre dans une position esclavagiste, t'es en train de me mettre dans une position d'invisibilisation complète, c'est le refus quoi, c'est le refus total. Et après il faut les consoler, il faut leur dire alors non seulement d'ailleurs il faut que je le dise, c'est important pour moi, cette interview elle était vraiment particulièrement importante, pas seulement pour les personnes qui font de la renversionnite mais aussi pour les personnes qui ont intégré cette renversionnite, de l'entendre en fait. Il faut qu'elles s'en rendent compte qu'elles ont intégré cette renversionnite parce que ça continue à asseoir ce système qui est effectivement un système qui est tout à fait qui dépasse les relations intimes en fait. Donc ça c'était le premier truc, arrêter vraiment d'être complice de cette renversionnite. Ça, c'est sûr. La deuxième chose, et là où c'était aussi important pour moi, cette interview, c'était Exhibit B. Je pense que ça vous parle. C'est ce moment-là où, dans cette représentation, on montre des personnes opprimées, mais on ne montre pas les oppresseurs. Et ça gêne personne, en fait. Et ça, c'est tous les jours comme ça. Et puis il y a aussi un autre aspect de la façon dont on peut renverser la situation, c'est aussi au moment où il faut réagir comme la personne elle a envie qu'on réagisse. Donc en fait on est des représentants abstraits de ce que c'est que l'oppression dans sa valeur la plus théorique, la plus abstraite en fait. Les gens ne se confrontent pas, ils ne se confrontent pas, ils font comme si c'était pas possible de se confronter, comme si en sortant de la rue, ça n'existait pas. Ce ne sont pas des concepts que théoriques en fait. Il y a des moyens de se confronter et ces moyens-là, c'est d'entendre les retours qu'on peut avoir de nos comportements. Ça, c'est un outil en fait, c'est un outil précieux, c'est un cadeau. Un jour, un ami m'a dit ça, il m'a dit, quand quelqu'un me dit que j'ai eu un comportement raciste, cette personne-là, elle me fait un cadeau. Et en fait, ce serait chouette de le reconnaître. Franchement, ce serait chouette, ce serait un début en fait.
Est-ce que tu voudrais développer un peu sur Exhibit B parce que, enfin, moi je veux bien présenter vite fait le truc ou quoi, mais parce que je pense que peut-être à plein de moments, ça peut nous paraître logique, mais je pense en vrai, plein de gens n'ont pas suivi cette histoire. Et où du coup c'est une exposition un peu théâtrale là où il y a des humains qui sont acteurs dans l'exposition et ça représente du coup un zoo humain avec des personnes esclaves et enfermées qui sont que des personnes noires. Et finalement c'est ça quand tu disais l'oppresseur et le dominant n'est pas représenté, c'est-à-dire qu'à un moment aucune des personnes qui enferment, qui met en esclavage des personnes n'est représentée.
Ouais, tout à fait. Je pense que c'est important. La présentation que t'en as faite, elle était hyper intéressante parce que, en fait, ça montre bien à quel point c'est simple de disparaître et de faire comme si, en fait, tous ces sujets-là, ils étaient que à la charge des personnes qui sont oppressées, en fait. Donc, moi, ce que je me rappelle bien de cette affaire-là, c'est que, et ce qui me plaît pas, je peux parler en mon nom, ce qui me plaît pas là-dedans, c'est que dans plein de situations, c'était à ma charge, en fait, j'étais un peu abandonnée dans ce rôle-là, quoi. Moi non plus, en fait, j'ai pas envie de porter l'histoire de mes ancêtres, en fait. C'est lourd. En fait, c'est lourd. C'est lourd de devoir porter l'oppression sur des générations et des générations. Oui, ok, c'est peut-être lourd de devoir porter le fait de devoir prendre le passé de ses ancêtres et de dire « Ah bah oui, mes ancêtres, ils étaient méchants, là, j'ai pas envie d'être méchant, en fait. » Mais c'est dur dans les deux sens, en fait. Sauf qu'il y en a une partie qui assure ça et l'autre qui fait oh non c'était trop dur. Donc désolé, moi j'ai pas envie d'entendre ça en fait, et c'est pour ça en fait que Exhibit B c'est quelque chose qui qui m'emmerde. C'est qu'il y a un moment donné où il y a des gens qui ont décidé de se couper de l'histoire et de faire comme si en fait ils étaient pas héritiers de cette histoire là nous tout seuls on est héritiers de cette histoire là nous tout seuls en fait, il va falloir qu'on se confronte. Bah non, on dit non.
Et là où du coup aussi il y a du renversement et que c'est assez clair, parce que du coup j'ai l'impression que le renversement sur cette affaire-là, et on pourrait en faire une émission entière en vrai, il se passe à plein de niveaux, mais un des niveaux qui est un des autres niveaux que moi j'avais envie de dire, c'est comment à un moment... Une personne blanche dit « on va dénoncer l'esclavage et le racisme ». Et là, on dénonce l'esclavage et le racisme. Et en fait, en reproduisant des imaginaires et en conservant des imaginaires. Et du coup, en fait, c'est vraiment un renversement. C'est-à-dire en faisant croire et en voulant finalement dénoncer le racisme, et ben en fait, on reproduit des imaginaires et on les conserve et on les renforce. Et tout ça en pointant finalement et en montrant non pas les dominants et ceux qu'il faut accuser, mais finalement en continuant d'enfermer des personnes qui sont déjà opprimées dans la société.
Ouais, c'est un outil qui est constamment utilisé. Le dernier exemple que j'ai eu de cet outil-là, moi, c'était dans ce film « Bande de filles », là. Je vais même pas m'excuser en fait. C'était de la merde. Et c'était de la merde parce que le parti pris de la réalisatrice dans ce film-là, c'était de ne jamais montrer les personnes blanches. Comme si elles n'existaient pas. Et là, on se retrouve avec une bande de filles racisées qui se met à danser dans la rue, mais on ne voit pas les regards là, de tous les gens blancs là, qui vont les applaudir parce qu'elles dansent trop bien. Elle danse trop bien, quoi. Et moi, là, je me suis sentie vraiment abusée quand je suis allée voir ce film. Parce que, en fait, le parti pris dans ce film-là, techniquement, dans la réalisation, juste technique, hein, ok ? On oublie le scénario qui est trop cool avec Rihanna, là, ok ? Et on regarde un petit peu ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je me retrouve dans une salle avec des gens blancs, bien assis, bien installés dans leur siège, qui sont ce regard-là, qui sont ce regard de blanc sur une bande de filles noires. C'est eux qui sont ça. Ça, c'est le parti pris de la réalisatrice qui veut parler de racisme, qui veut parler d'invisibilité, qui veut montrer. Mais en fait, ils voient tout le temps. Ils sont le regard.
Et ce qui nous permet de directement enchaîner sur... Enfin, j'ai l'impression que si on veut faire un parallèle, parce que bon, voilà, comme on est une émission féministe, je me dis peut-être qu'il y a plus des personnes habituées au discours féministe qui écoutaient tout ça. Alors du coup, je me dis, là, il y a un parallèle... en parlant de cinéma, qui vient me frapper directement, c'est comment à un moment, plein de personnes vont représenter des viols au cinéma comme un truc de « c'est trop cool de représenter des viols, ça permet de les dénoncer ». Alors même que ça permet de les exotiser et de continuer à les montrer et d'une manière de les normaliser aussi. Et finalement, pas de les critiquer et de les et en fait de les arrêter ou en tout cas de les combattre de manière offensive. Et pour moi, c'est exactement le même mécanisme.
Ça fait partie de la culture du viol, comme Exhibit B et comme La Vénus Noire, ça fait partie de la culture de l'exposition coloniale, quoi.
Mm-mm. Il faut rappeler quand même que l'exotisation, pour moi, c'est vraiment une méthode de renversement, en fait. Où, à un moment donné, où il y a des gens qui essayent, en fait, d'exister. d'exister, c'est-à-dire d'avoir leur personnalité, leur goût, leurs envies, leurs aspirations, etc., etc. Et ben, on leur demande tout le temps, en fait, de représenter. Tout le temps.
De représenter ce qu'on attend d'elle qu'elle représente.
Tout à fait. C'est fatigant. C'est un piège. C'est un piège pour les gens qui ont décidé de s'émanciper, en fait. C'est un véritable piège.
Et c'est complètement à l'heure pour les personnes qui sont dans des trucs d'exotisation et tout, parce que finalement, sous prétexte de curiosité, d'ouverture d'esprit et tout ça, finalement, elle fabrique des cadres et elle fabrique des rôles et elle fabrique des imaginaires qui sont conservateurs, quoi.
Tout à fait.
Ben voilà, est-ce qu'on enchaîne ? Parce que le temps passe.
Ben ouais.
Oui. Alors, sans transition, on va écouter une interview où une personne nous parle de la question des privilèges de l'hétérosexualité.
Moi, je parle.
En fait, dans ce truc de renversionnite, ce que moi j'entends, c'est de constater que ça arrive régulièrement qu'en fait des personnes inversent. Donc par exemple, oui, parler d'hétérophobie, ou même pas de mettre ce mot-là, hétérophobie, mais de dire oui, mais c'est dur pour les hétéros dans certains espaces, des trucs comme ça. Et aussi, en fait, moi ce que j'ai vachement vu, c'est... se réapproprier à des moments des arguments de certaines luttes à des fins inverses. Par exemple, de prendre des arguments féministes à des fins anti-féministes, en fait, et de réutiliser comme ça, hop, on va aller toucher là où ça fait mal. Il y a cette pote-là, que je connais un peu, qui me dit ouais, alors ce que je trouve difficile, ce que j'ai trouvé difficile sur ce chantier, donc un chantier en non-mixité meuf ou une trans, elle me dit, c'est que je me suis sentie mal parce que je me sentis mal en tant qu'hétéro, hétéra. Je me sentais mal parce que j'avais l'impression que pour être cool, fallait être Gwyn. Que du coup, en fait, elle me dit, voilà, alors, c'est comme si la norme, ça devenait, il faut être Gwyn pour être une bonne féministe. Et comme si un top level du féminisme, c'était d'être Gwyn, et que du coup, bah, comme elle l'était pas, eh ben, elle se sentait trop naze. Que quand même, on peut pas en vouloir aux hétéras d'être hétéras. Et que voilà, et que ça lui faisait bizarre, et que du coup elle se sentait mal à l'aise en fait dans des espaces où il y aurait présumément beaucoup de Gwyn. Et là typiquement en fait pour moi il y a un truc de renversement, où en fait la personne en face elle me demande d'être empathique, de sa situation en fait de privilégiée, et elle joue sur un truc de... par rapport à la norme. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de recréer une norme, alors que justement l'idée c'est de se débarrasser des normes? Et où du coup, tout d'un coup, moi je me dis, ah merde, ça se trouve, bah oui, c'est vrai, bah, est-ce qu'on recrée des normes? Oui, est-ce que je suis en train de forcer tout le monde à être Gwyn et avoir des poils sous les bras et des trucs comme ça? Et du coup, elle m'amène à douter de moi dans un espace qui est justement fait pour, par exemple, se renforcer ou genre s'émanciper là, ou je sais pas quoi, en tant que Gwyn. Ça, c'est un exemple pour moi de renversement de situation. Et où finalement, en fait, je me suis dit, enfin d'ailleurs, je lui ai dit... Ben en fait, c'est quoi? C'est hyper rare en vrai qu'il y ait une majorité de Gwyn dans un espace meuf Gwyn trans, déjà. Et juste, si t'as l'impression que tout le monde est Gwyn, c'est juste parce que les Gwyn, elles parlent entre elles. Et elles se disent des trucs. Et des fois, elles blaguent. Et des fois, ben, juste t'as des conversations qui t'échappent. Ben, c'est ce qui arrive tout le temps, en fait, ben, quand t'es Gwyn dans le reste du monde, quoi. Enfin, dans plein d'endroits. Et encore même dans plein d'espaces féministes aussi. En tout cas, ça a été. Après, moi, ce que ça m'a fait, par contre, c'est une truc de colère, quand même, où je sais qu'au moment de lui expliquer tout ça, tranquillement, il y a tout cette partie de moi, en fait, qui est... ouais, qui est vénère, parce que juste, ça rappelle plein d'autres situations, et je me dis, en fait, bah ouais, j'étais en colère au moment où elle me l'a dit, je me suis pas énervée parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, et du coup, elle va où, en fait, cette colère, après, en fait? Et je la trimballe avec moi, et du coup j'ai presque honte d'être en colère contre quelqu'un pour qui j'ai de l'affection par ailleurs, en fait. Et en fait, à chaque fois qu'on explique quelque chose à des personnes, on se met en danger. Parce qu'en plus, ce qui marche le mieux en termes de pédagogie pour expliquer à des gens, c'est de parler de son ressenti personnel. Et que du coup, dès qu'on parle de son ressenti personnel, on donne des billes à l'autre, qui peuvent être réutilisées, en fait. Contre soi-même. Mais en fait, c'est ce truc-là, il y a des personnes féministes à des moments donnés qui disent en fait, il y en a marre de ces comportements virilistes, par exemple dans la maison, et qui commencent à gueuler. Et que en fait, ce qui est réutilisé contre elle à ce moment-là, c'est ben en fait, regarde, toi-même, t'es en train d'avoir un comportement viriliste. Qu'est-ce que tu viens reprocher en fait du virilisme dans la baraque? Et c'est utiliser des outils féministes à des fins anti-féministes en fait. C'est dire là, regarde, tu reproches à tel gars cis hétéro de prendre plein de place. Mais toi, quand t'es en train de hurler au milieu du salon, quand t'es en train de hurler dans une manif, mais tu crois pas que tu prends de la place? Et du coup, en fait, c'est ces trucs-là où qui sait, en fait, qui prend la place, à quel moment, pourquoi, Et c'est ces questions-là qui sont pas... où c'est complètement biaisé, et où là, tout d'un coup, tu te dis « Ah mais oui, mais j'ai pris plein de place et tout, mais en même temps, les raisons pour lesquelles moi j'ai pris de la place, c'est pas les mêmes raisons que les raisons pour lesquelles lui, ce mec cis hétéro-là, prend plein de place, en fait. »
Bonsoir, alors vous êtes toujours sur Dégenré, l'émission féministe pour déranger, et on vient d'écouter une petite interview qui nous parlait de la place des Gwynne dans le milieu féministe. Et alors, comme les autres interviews d'avant, il y avait une thématique qui continue, qui est qui prend soin de qui, à quel moment en fait, et qui se retrouve dans une place à devoir faire de la pédagogie, à devoir expliquer, à être en fait soutien pour des personnes qui plutôt sont dans des situations de privilège. Et ce sur quoi j'avais envie de revenir par rapport à cette interview, c'est la notion de fierté, en fait, que notamment quand on est dans des dynamiques de fierté, et notamment de fierté d'être Gwynne, on est vu comme en plus grande... on est plus nombreuses, quoi. Alors que c'est juste qu'on ouvre plus notre gueule. Et en fait, comment, comme tu le disais juste avant, comment en fait ça fait comme si ça apparaissait. C'est-à-dire qu'à un moment, une fierté, une visibilité, ça fait comme si le problème était apparu, quoi. Et le problème, c'est que l'espace de discussion étant restreint, il va à un moment falloir savoir de quoi est-ce qu'on parle et qui parle de quoi et quels sont les problèmes qui sont considérés comme être légitimes à être discutés collectivement et lesquels ne le sont pas. Une autre chose sur laquelle elle revient, c'est par rapport au virilisme. Et du coup, comment en fait, quand on est dans des dynamiques de fierté et d'empowerment et de s'affirmer, on va être très vite de taxé, de agressive en fait. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir parce que je trouvais ça intéressant. Alors, il y a aussi quelque chose dont elle parle et c'est vrai que la personne avec qui on a fait l'interview développait un peu plus. Et puis, à un moment, il a fallu qu'on choisisse ce qu'on allait mettre, quoi. Mais de comment, en fait, toutes les dynamiques de renversionnite, ça vient délégitimer nos discours, mais aussi ça vient faire quelque chose... d'un peu plus sensible, en fait, ça vient toucher à quelque chose de... C'est nos arguments, c'est nos luttes, et du coup, on se dit oh, « Merde, mais s'il faut, là, 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 là !» En fait, ça marche vraiment hyper bien quand on vient dire à des gens « Vous recréez une norme », ça marche hyper bien, parce que tu passes tellement de temps à lutter contre la norme que là, tu te dis oh, « Merde !»
Alors que même, est-ce qu'on peut considérer une norme quelque chose qui est une émancipation et qui est minoritaire dans la société ?
Non.
Et est-ce que porter fièrement et revendiquer fièrement des identités, c'est les ériger comme des normes ?
Non.
Et même prendre de la place avec nos identités qui sont minorisées dans la société, du coup les porter fièrement pour les montrer et dire arrêtez de nous minoriser, est-ce que pour autant c'est prendre plus de place et être dominante ?
Non. Non. Toujours non.
Voilà. Et du coup, nous accuser de ça, c'est faire...
De la renversionnite.
Totalement.
Alors, mais c'est bon ? T'avais fini de développer ?
Ouais.
Il y a quand même ce truc... alors, du coup, ce qui était intéressant, comme tu disais, c'était à quel point on peut rester fragile dans nos propres arguments. À quel point c'est facile d'être déstabilisé. À quel point facile. J'entends, il suffit d'utiliser un peu de renversionnite et voilà, ça s'effondre. Et c'est assez dramatique en fait pour les individus. Je pense qu'on n'insiste pas assez là-dessus, quoi. Au final, le ressenti de ce genre de stratégie, quand on le reçoit, c'est quand même très violent. Je crois que c'est quelque chose qu'on voit dans les interviews qu'on a entendues. C'est que ça peut vraiment causer des dégâts dans la tête des gens, comme la personne le dit. Elle a besoin d'aller chercher ressources et c'est intéressant de se dire qu'il faut pas douter en fait Il ne faut pas douter, il ne faut pas laisser la place au doute. Faut pas laisser, il vaut mieux se tromper que douter dans les luttes, je crois.
Et ben, en tout cas, là, on va enchaîner plus sur de la discussion sur comment toutes ces stratégies, toute la fabrication, tous ces renversements de situation, et du coup, à chaque fois qu'il y a de la renversionnite, c'est parce que des personnes ne veulent pas se remettre en cause et utilisent un certain nombre de stratégies pour pas se remettre en cause, pour pas remettre en cause les hiérarchies et les dominations qu'il existe dans notre société. Et surtout, du coup, demander aux personnes qui se révoltent et qui sont en lutte de rester à leur place. Mais avant ça, on va écouter 30 secondes de beatbox parce que, voilà, en fait, on le sait pas, mais il y a plein de meufs qui font de la beatbox et elles sont trop géniales. Et du coup, il faut les écouter de temps en temps. Petit intermède musical de beatbox. Voilà, alors c'était Romy, elle est géniale, elle est fantastique, elle est trop forte. Voilà, il y a pas mal de vidéos d'elle sur YouTube et ça vaut vraiment le coup, elle arrive à chanter en faisant du beatbox, c'est vraiment génial. Moi je suis une de ses grandes fans. Et voilà, du coup, on voulait revenir sur tous ces mécanismes qui sont mis en place pour pas se remettre en question. Et qui sont du coup des mécanismes de renversionnite, et on les a déjà plus ou moins évoqués tout au long de l'émission, qui va pas tarder à toucher à sa fin. Mais peut-être je pourrais les reciter et vous pourrez en parler un petit peu.
Bah oui, c'est une bonne
alors,
idée.
Alors pour les personnes qui font chouin-chouin sur leur situation, il y a le mécanisme de culpabilité. Alors voilà le mécanisme de culpabilité qui est un moyen de ne pas se remettre en cause et de juste souffrir de sa position de dominant finalement.
Mais oui, et ça a à voir avec comment est-ce qu'on va venir culpabiliser des personnes en disant que c'est elles-mêmes qui oppressent, qui prennent trop de place, ce genre de choses. Ou alors ça peut jouer sur un autre terrain qui est « j'ai trop de privilèges et je culpabilise, s'il te plaît, aide-moi à savoir quoi en faire parce que vraiment, je ne sais que faire de tous ces privilèges », mais qui en tout cas demande toujours à une personne oppressée de venir faire du taf à sa place.
Parfaitement.
Il y a aussi les personnes qui ont des positions dominantes et qui disent « mais arrêtez de me dire toujours des choses comme ça, vous me faites juste culpabiliser
!» Je sais pas.
Alors que je peux pas changer. Bon, vous voyez des personnes qui disent bah en fait je suis un homme, je resterai un homme, arrêtez de me faire culpabiliser de ma position sociale, ou je suis blanc, je resterai blanc, arrêtez de me faire culpabiliser de ma position sociale.
Souvent ça se termine d'ailleurs par finalement la vôtre elle est pas si mal.
Mais bien sûr.
Vous goûtez pas la plaisanterie ?
Si.
Donc voilà comment la culpabilité aussi ça participe à l'immobilisme en fait. Tous ces trucs de... Ben de... Quand on culpabilise, finalement, on ne change pas les choses. On passe plein de temps à culpabiliser, à se concentrer sur soi, à regarder son nombril. Et finalement, on ne met rien en place pour que les choses elles changent et pour lutter contre les systèmes qui existent dans notre société et pour créer des solidarités.
Mais comme on a passé déjà plein de temps à culpabiliser, on n'en a plus pour faire autre chose, quoi.
Voilà, finalement, c'est un choix très clair. Alors, il y a autre mécanisme de renversionnite pour protéger ses privilèges. L'extraction, s'extraire de notre position ou prendre le privilège de s'extraire de la critique ou de notre position.
Celle-là, c'est celle que je préfère. Mais comme je l'ai largement assez commenté, bon voilà, je crois que c'est assez clair. Ça fait ses preuves.
Alors, il y a...
Je voudrais quand même ajouter un truc, c'est que en fait, tout au début, quand on a préparé cette émission et qu'on a dû réfléchir en fait à ce qui permettait aux personnes de mettre en place la renversionnite, on s'est rendu compte que le dominé était souvent aveugle de ses privilèges en fait. Et c'est là où c'est intéressant parce que quand je m'extrais, je refuse de voir tout simplement.
Mais en fait, c'est même avant l'extraction. Si à un moment une position de domination, ça veut dire que t'es dans la norme, ça veut dire que tu vois pas. Le fait qu'il y ait d'autres gens, l'aveuglement, il est déjà là, l'extraction, elle est fabriquée, quoi.
Elle est fabriquée, je sais pas vraiment. Moi, je pense que c'est une stratégie, parce qu'en réalité, il n'y a pas de domination sans privilège, en fait. Et quand on décide de dominer, c'est pour avoir des privilèges. Donc, faut arrêter, quoi. C'est une stratégie.
Je suis convaincue.
Alors après, il y a les problèmes de hiérarchisation des luttes. Genre, il y aurait des luttes prioritaires et des luttes moins prioritaires. Et de mettre en avant des luttes moins prioritaires à l'intérieur de luttes prioritaires, eh ben, ça nuirait à notre crédibilité.
Et ça, j'adore. C'est le moment où là, je prends la parole parce qu'il y a 2-3 personnes que j'aimerais bien démonter en rapidité. PMO, là, je voulais quand même parler de ça parce que ça, c'est très bien. Alors oui, c'est vrai, il existe un espace de lutte limité. Il existe même une lutte suprême à laquelle nous devrions tous faire déférence, tous et toutes, évidemment. Et c'est certainement pas le féminisme. Certainement pas, quoi. C'est, je sais pas moi, l'écologie, sauver la planète. Non, c'est pas le racisme, ça n'a rien à voir.
L'anticapitalisme.
Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi.
Non, mais ou la lutte contre l'État.
Bah oui, c'est ça qu'il faut faire, là, tout de suite, en fait. Et alors, moi, pourquoi PMO, ils m'ont vraiment fait péter un plomb. C'est qu'à un moment donné, par rapport à leur dernière brochure où ils mettent une photo avec marqué « Ceci n'est pas une femme », il y a... Dans un exemple de renversionnisme total, là, de lutte qui doivent prendre plus de place que d'autres, etc., c'est que, en fait, au lieu de dénoncer le fait qu'il existe des moyens qui ont été mis en place pour continuer à affirmer cette binarité dans le système de homme-femme, c'est-à-dire des hormones qui existent, en fait, ils dénoncent le fait que ce soit des personnes qui reprennent ces hormones pour casser la binarité. Donc il y a un moment donné où, en fait, dans ce truc de lutte, il faut se rendre compte qui on vise, en fait. Est-ce qu'on est en train d'affermir un système qui existe déjà et qui prend déjà beaucoup de place, ou est-ce qu'on est en train de démolir les gens qui essayent de le démolir aussi, en fait, par d'autres moyens? Il faut laisser la place à tous les moyens, en fait. Il faut arrêter de dire c'est quoi le chemin pour faire ou pour pas faire. C'est pas à vous de décider, en fait. Du coup, là, vous vous trompez de sujet. Vous êtes hors sujet.
Moi, j'avais envie de revenir sur la notion de crédibilité, parce qu'en fait, pour moi, elle est, vous voyez, il y a comme deux blocs de chaque côté. Je vois... Enfin, qui concerne l'individu et sa classe, disons. D'un côté, il y aurait des trucs d'exotisation et de l'autre côté, il y aurait des trucs de crédibilité. Et pourquoi je le rapproche, c'est qu'à un moment, en fait, on a une manière, on reste à sa place d'une certaine manière, soit par rapport à ce que les gens ils imaginent de qui on est, soit par rapport à ce que les gens on imagine qu'on n'a pas envie qu'ils soient. Genre, ouais, en fait, est-ce qu'on est hétérophobe ou pas? Comment est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en dit, en fait? Comment est-ce que on va être dans un truc de oui, mais en fait, si on dit ça, soit c'est intégré, soit c'est d'autres gens qui viennent nous le ramener dans la gueule, en fait. Si tu as ce discours-là, si tu es en train de t'énerver, ben du coup, ça veut que ta lutte, elle est pas crédible, en fait. Parce que tu arrives pas à être pédagogique, alors que franchement, de la pédagogie, on en fait, mais à balle, je veux dire, on est en train de faire une émission pédagogique. Bon. Et du coup, à un moment, c'est des trucs de stratégie, en fait. Moi, je trouve que la personne a choisi la stratégie qu'elle veut, en fait. Et d'où est-ce qu'on vient dire « oui, mais ça, ça décrédibilise le mouvement, en fait ».
Et d'une manière, du coup, on se rend compte comment les mécanismes de renversionnite qui sont mis en place par les personnes qu'on va attaquer ou qu'on va critiquer, ils nous touchent énormément dans nos luttes et dans nos choix de lutte. Et toujours, on va réfléchir à comment on va être perçu. Faudrait pas être agressif ou oui, on a le droit d'être, par exemple, on a le droit d'être lesbienne, mais à condition d'être normale. il faut pas faire peur. Il faut être ouvert, il faut être pédagogique, il faut pas critiquer trop frontalement, il faut pas être quelque chose phobe, il faut pas... Et en fait, tout ça, ça nous casse vraiment dans nos luttes et ça fait aussi que ça nous empêche de... En fait, ça va casser aussi des formes de radicalité de la lutte. C'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir peur d'être prise pour des personnes anti-hommes ou anti-quelque chose et du coup, ça va vraiment empêcher d'être... Ça va casser notre offensivité. Et ça, c'est hyper important de s'en rendre compte. Et aussi, du coup, ça nous amène à réfléchir... J'enchaîne un peu. Ça nous emmène à réfléchir, c'est de qui on veut avoir de la reconnaissance. Est-ce qu'on veut être connu par des dominants, par les personnes qui nous dominent, par les personnes qui nous oppressent? Ou est-ce qu'on veut être reconnu par les personnes qui pourront être solidaires un jour de notre lutte ou avec qui on partage cette lutte? Et alors du coup, à qui on s'ouvre? Par exemple, on revient sur l'exemple de la bibliothèque. Est-ce que notre priorité, c'est de se dire que des personnes cis se sentent bien dans la bibliothèque? Ou est-ce que notre priorité, c'est de se dire que des personnes trans ou des personnes qui vont être stigmatisées ou exclues dans notre société, elles se sentent bien? Et du coup, à qui on s'ouvre? À qui on donne la priorité? Et je pense que c'est là qu'en fait on va gagner en puissance, c'est en se disant que nos réels alliés, c'est pas les dominants, et que c'est pas auprès d'eux qu'on va devoir aller chercher notre crédibilité et notre reconnaissance, mais c'est auprès des personnes de qui on peut s'allier, avec qui on peut faire alliance et avec qui on va lutter.
Tout à fait, et ça dépend beaucoup des situations. Je pense que c'est important de le rappeler, et pour moi-même en fait j'essaie de me le rappeler au quotidien, que en fait dans une situation donnée, eh ben en fait je peux avoir une place dominante éventuellement. Et moi, je me le rappelle, mais peut-être parce que je suis souvent écrasée aussi. Du coup, je me le rappelle. Je pense que c'est important de se poser cette question, de réfléchir au statut qu'on a par rapport au groupe dans lequel on est et dans la situation dans laquelle on se trouve. En fait, ça prend 5 minutes.
Il y a un autre truc qu'on voulait rappeler. C'est en fait comment la renversionnite, en fait, c'est une stratégie d'État.
C'est une stratégie d'État.
Elle est partout, tout le temps.
Bah, elle est à Pôle emploi. Quand on t'explique que c'est ta faute si t'arrives pas à trouver du travail. Elle est à la télévision. Quand on t'explique que c'est ta faute, en fait, finalement, c'est la crise. Quand on t'explique que c'est ta faute,
la planète est polluée, c'est parce que t'as pas bien fait le tri.
Tout à fait. Tout ça, c'est ta faute, en fait.
La renversionnite, elle existe quand on parle des pauvres policiers qui se font agresser. Ou qui se font...
Ça...
C'est terrible pour ces policiers parce qu'il y a des gens qui portent plainte contre eux pour coups et violences.
Et alors, c'est vraiment terrible cet outil que l'État peut mettre en place, parce que le pire, c'est que ça draine de l'énergie, quoi. Et ça, on l'a vu dans les derniers événements de Charlie Hebdo. Ça draine de l'énergie. Tout d'un coup, l'État devient victime de deux individus. Comme si on était dans un État qui n'avait pas les moyens de les arrêter. Comme si, quoi.
Alors finalement, les policiers deviennent des héros
des
et martyrs.
Qui sont applaudis dans la rue.
Finalement, ce n'est pas l'État qui atteint la liberté de la presse et qui dicte des lignes éditoriales à tout un tas de journaux et à tout un tas de médias. Non, c'est deux personnes qui portent atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d'expression. Mais c'est pas l'État quand il passe des lois islamophobes qui interdisent l'expression de culte à des personnes. C'est pas l'État quand il interdit tout un tas d'expressions sous couvert de présumer je sais pas quoi.
Et ben finalement, oui. Finalement, c'est les musulmans qui sont en fait les premiers responsables de l'islamophobie en France.
Et dans l'histoire de Charlie Hebdo, pour continuer, de la renversionnite de l'État et de tout un tas de gens, finalement, c'est pas l'État qui fabrique du racisme, c'est pas les racistes qui fabriquent, les personnes racistes et un système raciste qui fabrique du racisme.
Ah non.
Non, pas du tout. C'est quand un arabe chourre dans un magasin, ça fabrique du racisme. Quand un rom fait la manche, ça fabrique du racisme. Ou quand un musulman pète un câble et va tirer sur des gens, ça fabrique du racisme. Mais c'est pas le système qui fabrique du racisme. C'est pas le système qui est déjà raciste. C'est les personnes mêmes qui subissent ce racisme qui le fabriqueraient.
Ce qui me permet de pouvoir passer un petit message à pas mal de personnes qui ont pu, à certains moments, se sentir touchées, compréhensives de ce genre de stratégie de l'État, en fait, et où ça touche à l'émotionnel, comme on disait tout à l'heure, et de leur rappeler vraiment que c'est très important de se tenir à distance de ce genre de complicité-là. Il faut faire attention à avec quoi et sur quoi on devient allié et comment on devient complice de ces choses-là.
Mais on est à la fin de l'émission de radio. Et alors,